enregistrement oral, parce que là, je viens d'entendre que ça s'était déconnecté, donc voilà. Bon, alors c'est parti. Vous avez bien le... Qu'est-ce
Oui,
qui
bon,
s'affiche, le plan, là, c'est ça?
oui.
Bon, impeccable. Donc, je vous avais annoncé hein, qu'il y aurait trois parties. Donc, la première partie, je pensais vous faire une présentation d'ensemble des textes de la tradition hindoue. Puis, en préparant mon truc, je me suis dit, ah ben non, je vais partir plutôt d'autre chose. Je vais partir du terme Advaita Vedanta. C'est ça qui va me servir à vous présenter un certain nombre de choses. Ensuite, la deuxième partie, je vais vous parler de Shankara, un personnage dont vous avez entendu le nom, mais dont probablement peu d'entre vous connaissaient le parcours. Et puis, pour finir, eh bien, on fera une lecture commentée d'un des textes les plus célèbres de Shankara, parce que c'est un poème et que il a été mis en musique et qu'il est chanté, récité, de plein de façons différentes, dans plein d'ashrams, à l'occasion de tout un tas de choses, enfin de cérémonies. Et en fait, comme nous le verrons, c'est un texte assez étonnant parce que c'est un poème, donc c'est court et c'est rimé, mais il y a une densité philosophique dans ce poème qui fait que on peut le prendre comme point de départ pour explorer la philosophie indienne parce que tous les concepts importants sont dedans. Hein, donc ça va à la fois marier je l'espère, le plaisir et l'aspect ludique d'un poème, et puis en même temps donc avoir une espèce de sésame là, pour entrer dans la pensée, dans la culture indienne. Voilà, donc on démarre avec ce que j'ai appelé, vous avez dit, Advaita Vedanta. Pourquoi comme une question, parce que vous utilisez ce mot, vous l'avez lu, vous l'entendez, et en particulier si il faut présenter Swami Prajnapada à des gens, etc., vous allez dire oui, c'est un maître, mais vous n'allez pas dire c'est un maître de yoga. Vous savez que ce n'était pas un yogi au sens où on l'entend actuellement, c'est-à-dire quelqu'un ayant une pratique corporelle, etc. Il se trouve que Swami Prajnapada, il faisait du yoga. Mais ce n'était pas ça, du yoga postural. Hein, il faisait un petit peu de yoga tous les matins. Mais voilà, ce n'est pas ça sa caractéristique. Donc vous allez avoir tendance à dire, oui, ben, c'est un maître védantique. Et puis, si vous voulez paraître encore plus sérieux et cultivé, oui, il enseigne l'Advaita Vedanta. Alors ah bon, c'est quoi? Ben, c'est Vedanta non dualiste. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire Vedanta? Et en quoi on peut parler de Vedanta non dualiste? C'est de ça dont je vais vous parler. Alors, on va faire du sanskrit, mais c'est pour ça que c'est pratique d'avoir un écran, parce que sinon, il faudrait que chaque fois que je me lève, et puis voilà. Donc, bah, très souvent, les mots sanskrit, ils sont des mots composés. Donc, le mot Vedanta, il est composé de deux racines, d'un côté Veda et de l'autre côté Anta. Qu'est-ce que ça veut dire, Veda? Veda, la racine sanscrite, vid, c'est celle qui a donné en latin vidéo et en français vision. Donc, Veda, c'est ce que l'on voit, et c'est très intéressant de mettre ça en relation avec Swamiji, puisque Swamiji, ce qu'il faut, c'est voir et pas penser. Hein? Donc le Veda, c'est ce qui a été vu. Alors donc, on va voir par qui. Mais du coup, de cette première signification est sortie les significations dérivées. Veda, c'est ce qu'on connaît ou ce que l'on sait. Donc, le Veda, c'est les connaissances, mais qu'on a acquises parce qu'on a vu, si on s'en tient à l'étymologie. Voilà. Et Anta, Anta, c'est la limite, la fin. Alors, la limite physique, par exemple, quand on parle de Dieu, on dit ananta. Le a est privatif. Donc, on dit qu'il est sans limite. Et donc là, on nous dit c'est la limite, la fin, mais on peut aussi comprendre le mot fin au sens de finalité, c'est-à-dire c'est le but. Hein? Ou, là, j'ai mis l'achèvement. Hein? Voilà. Donc, le Vedanta, eh bien, c'est la première signification littérale, c'est la fin du Veda. Alors, pourquoi la fin? Ça veut dire que c'est la partie finale des textes védiques. D'accord? C'est comme dans la Bible, il y a un début, un milieu, une fin. Le mot Vedanta désigne la partie terminale du Veda, les textes qui sont à la fin. D'accord? Mais dans un deuxième niveau de sens, on peut dire aussi que c'est la finalité du Veda, l'achèvement de la connaissance. Voilà. Et on trouve en effet, selon les contextes, ces deux significations. Voilà. Alors, oui, je voulais vous le dire, et puis je dis aussi pour ceux qui sont en ligne, si du moins ça fonctionne toujours, ce que je n'en sais rien, on va dire. Voilà. Si, normalement, ça a l'air de marcher, parce que j'ai une petite icône là dans un coin. Hein. Il faut pas hésiter à m'interrompre, parce que sinon, moi, voilà, je vais dérouler mon truc là, du début à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me dites. S'il y a quelque chose que vous comprenez, mais vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites aussi, de façon à ce que ce soit interactif. Voilà, donc sur le Vedanta, ça va? La fin du Veda, ou aussi le but du Veda. Maintenant, Advaita, ça vous avez sûrement vu plusieurs fois dans les livres d'Arnaud, de Swamiji. C'est un mot qui se décompose là aussi en deux. Il y a le A qui est le A privatif et Dvaita qui veut dire dualité. Donc A privatif, c'est l'absence de dualité, donc la non-dualité. Donc le Vedanta, l'Advaita Vedanta, c'est la connaissance finale de la non-dualité. On peut dire ça comme ça. D'accord? Sauf que, à partir du moment où on vous dit Advaita Vedanta, c'est comme si on vous dit voiture rouge, donc ça laisse entendre que peut-être il y a des voitures d'une autre couleur. Si je vous dis je suis venu en voiture, mais si je vous dis je suis venu en voiture rouge, ce n'est pas le cas, mais peu importe, donc vous dites ah donc il aurait pu venir en voiture bleue, jaune, blanche, etc. Eh bien c'est pareil quand on entend Advaita Vedanta. On doit du coup se dire, bah alors, est-ce qu'il y aurait un Vedanta qui ne serait pas Advaita? D'accord? Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça existe?
Non. Si, moi je pense que
Oui?
Bah oui, ça existe.
Eh oui?
Oui,
Oui?
forcément.
Non, non, il y a le droit aux mauvaises réponses, c'est pas un problème. En effet, on va voir que d'un point de vue historique, il y a eu plusieurs écoles de Vedanta et que, il y a des écoles qui ne sont pas non-dualistes, qui considèrent que la réalité ultime, elle ne peut pas se réduire à un principe. Il y a deux principes, parfois trois. Voilà. Donc oui, il existe des écoles. Qui ne sont pas, qui sont védantiques, qui se réclament du Veda, et spécialement des textes situés à la fin du Veda, mais qui sont dualistes. Voilà, donc c'est l'occasion de s'informer.
Et juste en faisant bref, les premières parties du Veda, alors elles portent sur quoi?
Je vais en venir, je vais y venir. Voilà, donc. La conclusion de cette diapo, Advaita Vedanta, c'est la connaissance ultime traitant de la non-dualité. Bon, c'est plus simple en sanskrit. Alors, donc cette connaissance ultime là, qui se trouve à la fin du Veda, d'où elle vient, qui l'a rassemblée, ou comment dire. découverte et partagée.
C'est quand la fin des Védas, historiquement ?
Alors, historiquement, il n'y a pas de fin. Alors, je vais préciser, les textes classiques, on va dire que c'est jusqu'au début de notre ère, mais la tradition védique a cette particularité qu'elle c'est une tradition ouverte. C'est-à-dire qu'on peut toujours rajouter des textes. Contrairement à la Bible, où voilà, on imagine mal que la Bible d'il y a un siècle, il y ait moins de textes qu'aujourd'hui, et puis que la Bible, dans deux siècles, il y ait encore plus de textes. Nous, on a des traditions qui sont closes. C'est-à-dire que voilà, Dieu a parlé à travers la bouche des prophètes pendant un certain temps, et puis après, il a dit, j'en ai dit assez, maintenant vous vous débrouillez. Alors que du point de vue védique, la source d'inspiration qui s'est inscrite dans les Védas, elle est éternelle, et donc elle peut continuer à s'exprimer, et donc il peut y avoir des textes qui viennent se rajouter au corpus classique. Voilà, je vais en reparler tout à l'heure. Toujours est-il que, à l'origine des Védas, bien, il y a un type particulier de sages qu'on appelle des rishis. Vous avez forcément aussi entendu le mot, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, par rapport à, disons, à un sage classique, qu'est-ce qui différencie un sage classique et un rishi, bien, il y a une dimension poétique chez le rishi. C'est un sage, mais c'est un sage qui a développé une sensibilité d'artiste, on pourrait dire. Alors, d'artiste ou en réfléchissant à ça, en préparant mon topo là, je me suis dit qu'en fait, ce qui pourrait nous faire le mieux pressentir ce que pouvaient être les rishis, ce sont les aborigènes d'Australie. J'imagine que parmi les aborigènes d'Australie, il y en a qui sont un peu stupides et d'autres qui sont très plus éveillés, enfin, je veux dire, pas comme partout. Mais bon, j'ai vu quelques reportages où on interroge des aborigènes un peu âgés, qui ont un peu de bouteille, etc. Et ce qui m'a paru évident, c'est qu'ils ont une connexion extrêmement subtile, extrêmement fine avec leur environnement. Et du coup, ils sentent en fait, d'abord concrètement, ils arrivent à se déplacer sans carte, sur des longues distances, etc. Et puis, la nature est vivante, enfin, elle leur parle, non pas avec des mots, mais voilà. Donc il y a comme ça une espèce de grande ouverture, de grande sensibilité à ce qui les entoure. Et du coup, ils ont une forme de sagesse, parce qu'ils comprennent, ils font pas n'importe quoi, enfin, ils insèrent leurs actions dans... Voilà. C'est comme ça que je les représente. Ces rishis védiques, comme des êtres particulièrement, dont la sensibilité particulièrement fine, et qui du coup ont capté l'harmonie de l'univers, le rythme de l'univers. Il y a une notion, c'est une harmonie qui est dansée, c'est pas une harmonie statique. Il y a un terme en sanskrit qui est riche. Qui est Rita, et c'est l'ordre comme il y a de l'ordre dans un morceau de musique, c'est-à-dire ou comme il y a de l'ordre dans les saisons, ou comme il y a de l'ordre dans le retour, voilà.
C'est de l'ordre en mouvement.
De l'ordre en mouvement. Et voilà, les rishis, ils ont été capables de capter ça, et du coup, ils ont été dans une attitude de retransmettre la beauté, l'harmonie. Donc les textes védiques, c'est beaucoup des poèmes, des psaumes, des louanges, à l'égard des éléments de la nature, à l'égard des divinités telles qu'ils se les représentaient dans une période très très ancienne. Et ce qui fait que une bonne partie des textes védiques ne sont presque plus lus maintenant parce qu'ils sont trop archaïques. Ça renvoie à une. Ça ne parle pas même à des hindous parce que c'est vraiment une culture très très ancienne. Mais, donc, c'est pour ça qu'on parle des rishis comme étant les fondateurs de la tradition indienne, parce que c'est eux qui ont capté comme ça l'harmonie du monde, qui en ont témoigné, et puis qui, petit à petit, pour certains d'entre eux, se sont dit, mais c'est pas suffisant de témoigner comme ça de cette harmonie. Il faudrait qu'on puisse transmettre notre expérience intérieure de connexion. Et c'est comme ça que les premiers enseignements un petit peu construits sont apparus, mais ça s'est fait au fil du temps. Et c'est ce qui fait que dans les textes, c'est à la fin des Védas que l'on trouve, disons, les textes qui sont moins d'ordre poétique et plus d'ordre initiatique ou philosophique. Et donc, en ce sens, les rishis, ce sont les auteurs de l'ensemble du Véda, mais encore une fois, il n'y a qu'une toute petite portion du Véda qui nous parle à nous du XXe siècle et au XXIe, et encore plus à nous autres occidentaux. Les hindous, ils utilisent encore les prières qu'il y a dans les parties anciennes des Védas pour certains rites, des rites un peu traditionnels, très anciens, etc. Voilà. Ce n'est pas que les paroles leur parlent forcément, mais un peu comme chez nous, si on reprend une cérémonie religieuse en latin il y a plusieurs siècles, ben voilà, on trouvera qu'il y a les sonorités, etc. Même si, en admettant qu'on parle le latin, enfin qu'on comprenne le latin, on trouvera que les images sont un peu vieillottes, etc. Mais on pourrait avoir, si on avait une sensibilité religieuse tournée vers le latin, on pourrait avoir un goût à faire des cérémonies en latin, même selon des liturgies du Moyen Âge, par exemple. Voilà. Donc, c'est comme ça que les textes védiques sont utilisés en ce qui concerne la partie la plus ancienne. Et puis, c'est la partie la plus récente, mais qui est quand même très ancienne, c'est-à-dire qui date d'avant, en gros, les Upanishads classiques, elles datent des 8 derniers siècles avant notre ère. La plus ancienne, elle a 800 ans, elle a 800 ans avant notre ère, et puis la plus récente, c'est du début de notre ère. Voilà. Donc c'est quand même des textes très anciens, mais qui sont quand même, qui peuvent être lus et qui font encore sens.
Parce qu'en fait, la fin des Védas, ce sont les Upanishads.
Voilà.
D'accord.
J'y arrive, mais non, non, mais il faut. C'est bien de m'interrompre comme ça, parce que il faut savoir que on parle du Véda au singulier ou des Védas au pluriel. Pourquoi? Parce que au départ, le Véda, c'est une collection informelle de textes, enfin, qui ont été composés par les rishis, et qui se sont d'abord transmis oralement. Donc on dit des textes oraux, c'est un peu bizarre, mais je veux dire, c'est de la matière qui s'est transmise oralement, et puis qui, un beau jour, a été mise par écrit. Voilà. Donc ça, ce Véda des origines, plus personne ne sait ce que c'est, puisque c'est les traditions orales qui, pendant plusieurs millénaires, se sont développées et retransmises. Et à une certaine époque, que les hindous situent il y a 3000 ans, et que les indianistes, c'est-à-dire les spécialistes universitaires de ces questions, vont situer au début de notre ère. Voilà. Mais on va adopter, si vous voulez bien quelques instants, le point de vue traditionnel. Le point de vue traditionnel, c'est que il y a environ 3000 ans, a commencé, il y a environ 5000 ans, c'est-à-dire 3000 ans avant notre ère, a commencé le fameux Kali Yuga, l'âge sombre. Et c'est au moment de l'entrée dans cet âge sombre que un sage nommé Vyasa, conseillé par les autres sages de l'époque, s'est dit ça va se perdre, toutes ces connaissances, il faut les rédiger et il faut les présenter sous une forme qui puisse être facilement recopiée et transmise. Et donc, c'est ainsi. Oui, vas-y. Oui, pose ta question.
C'est juste parce que j'ai écouté l'internet, là, on entend par exemple un mot. Il y a un débit qui est très mauvais. Peut-être que tu fais la vidéo, parce que quand tu prends beaucoup de temps passant, le son se va quand même, parce qu'il y a des moments où on entend c'est très très haché, quoi.
D'accord. Donc,
essaye de couper la vidéo de ton côté, ça va libérer la bande passante.
D'accord. Alors.
C'est pas grave, on aura un pour voir.
C'est un bras, oui.
De libérer la bande passante. Il faut que tu aies l'image et que tu fasses le son. Parce que si tu veux, tu aurais le bras passante.
Voilà. Donc, hop. Donc, Vincent, tu vas me dire hein, si c'est mieux ou pas.
Salut, il faut que tu parles.
Oui, il faut que je parle.
Bon, alors,
oui,
on va voir. Hein.
Oui, on va voir. Non, mais de toute façon, ça ne peut qu'être mieux. Voilà. Hein. Puisque. Voilà. Alors, du coup, j'en profite pour vous dire que, bien sûr, vous pouvez intervenir. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes à distance que vous ne pouvez pas. Faire une remarque ou poser une question.
C'est mauvais.
C'est mauvais aussi. Bon.
C'est vrai, on les entend bien.
Nous, on vous entend bien, voilà.
Et si eux, ils coupent leur caméra.
Oui, alors vous, il faut aussi couper vos caméras. C'est en bas de l'écran à gauche, il faut désactiver la caméra.
Oui, j'ai coupé la caméra.
D'accord, et ben du coup. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit?
Voilà, on t'entend, mais bon, il faut parler longtemps.
Voilà, et ben là je vous entends, donc faut pas hésiter à intervenir quand vous voulez poser une question ou faire une remarque. Donc j'en étais au passage entre le Veda, du Veda au Veda au pluriel. Donc, à une époque que traditionnellement en Inde, on fixe au début du Kali Yuga, mais que les indianistes disent non, de toute façon, il n'y avait rien à cette époque-là, c'est beaucoup plus récent, eh bien, un sage nommé Vyasa a rassemblé les traditions orales et les a organisées en 4 recueils. Et c'est pour ça qu'on parle des Védas au pluriel, et chaque Véda a un nom particulier. Donc le premier s'appelle le Rig Véda, le deuxième s'appelle le Sama Véda, le troisième s'appelle le Jayur Véda, et le quatrième s'appelle l'Atharva Véda. Donc ça, ce sont les Védas imprimés, voilà. Que en fait j'ai jamais vu dans une version complète, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je voulais vous amener les Upanishads, j'ai oublié, mais ça sera pour la prochaine fois. Comme ça, vous auriez vu physiquement ce que ça représentait. Mais ça doit être assez volumineux. Hein, mais voilà. Alors, ces Védas sont considérés par les hindous comme leur texte sacré de base. Hein. Et il y a un mot pour désigner ce caractère sacré. C'est le mot Shruti. Et le mot shruti, la racine, c'est la même chose que l'oreille et l'audition. Parce que, d'un certain point de vue, je vous ai dit tout à l'heure que Veda, c'est ce qu'on voit, donc on imagine que les rishis, ils ont vu l'harmonie. Mais non seulement ils ont vu, mais ils ont entendu. Et même, en quelque sorte, ils ont vu l'harmonie, mais ils ont entendu les phrases qui décrivaient l'harmonie. On pourrait dire ça comme ça. C'est de la poésie inspirée. C'est-à-dire que ce ne sont pas eux qui ont décidé de rédiger ces textes, ils ont été inspirés par quelque chose de plus grand qu'eux. Donc, les Védas sont traditionnellement considérés comme Shruti, c'est-à-dire, donc nous, en français, on dirait c'est les textes révélés, et si on veut traduire Shruti mot à mot, c'est les textes entendus. Donc ça veut dire aussi que pour les hindous, ce sont des textes qui sont d'origine non humaine. Là aussi, il y a un terme sanskrit, apurusheya, a c'est toujours le privatif, et purusha c'est l'être humain. Donc non humain, c'est apurusheya. Donc les textes védiques n'ont pas d'origine humaine. Alors ça donne des choses assez étonnantes, c'est que, bien sûr, les livres, ils sont une matérialité. Mais ce qui est écrit dans les livres préexiste au fait que ça soit écrit. Et donc, il dit que les Védas sont éternels. Parce que quand, à la fin des temps, quand l'univers se résorbe, donc il n'y a plus rien, mais il y a encore le plan de l'univers suivant. Donc les Védas ne disparaissent pas quand l'univers disparaît. Et quand un nouvel univers apparaît, eh bien on déploie les plans pour que ça fonctionne. Voilà. Bon, c'est une notion assez étonnante. Mais. Pardon ?
Un peu comme l'ADN.
Ça fait ça, l'ADN ?
Ça garde en mémoire.
Oui, bah c'est.
Le monde nouveau qui vient après nous.
D'accord. Bon, bah c'est de l'ADN spirituel. Il est là.
Et donc il y a une notion de finitude finalement dans la pensée de l'Inde, comme si l'univers à un moment donné allait s'effondrer. Ou...
Alors tout à fait, ce qui est éternel, c'est les principes, mais ensuite la manifestation de ces principes ne peut pas être éternelle. Donc l'univers dans lequel nous nous situons actuellement, c'est que l'un des univers d'une série. Avant cet univers-là, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais c'est volontiers que je le fais. Du point de vue hindou, l'univers actuel, celui qui, selon les scientifiques, a commencé il y a 13 milliards d'années, ou presque 14, avec le fameux Big Bang, eh bien, cette représentation moderne, elle convient tout à fait à la pensée traditionnelle. C'est-à-dire que pour les hindous, c'est évident que notre univers a commencé. Alors, ils vont dater ça d'une façon assez différente parce que c'est pas des calculs scientifiques, c'est des calculs symboliques. Mais notre univers a commencé, voilà. Il se déploie et il va se résorber. Mais la fin de notre univers, ça ne sera pas la fin des univers. Avant cet univers-ci, il y en avait eu un autre, et après, il y en aura encore un autre. Donc, il y a cette idée que c'est un jeu de manifestation et de résorption. C'est vrai à toutes les échelles, c'est-à-dire c'est vrai à l'échelle d'une vie humaine. Voilà. On va dire que notre vie, c'est comme un univers, puis on meurt, il y a résorption, et puis il y a réincarnation, c'est un nouvel univers. Ça, c'est sur le plan individuel. Et bien, sur le plan cosmique, c'est la même idée. Un univers, ça correspond à une journée de Brahma, le créateur. Alors, une fois qu'il a vécu pendant une journée, et bien, il s'endort, et donc l'univers se résorbe, puis il se réveille après, il y a un nouvel univers, et comme ça, de façon indéfinie. Et donc, le Veda, eh bien, il reste un peu comme quand on s'endort, apparemment on perd tout repère, mais on, le, comment dire, le programme de ce qu'on est n'est pas perdu, puisque quand on se réveille, on sait qui on est, comment on s'appelle, etc. Voilà. Voilà, donc c'est une particularité du Veda, comme ça, en tout cas hein, pour les hindous, d'être considéré comme vraiment, c'est pour ça que c'est sacré, c'est parce que ça, c'est intemporel. Et puis, donc, l'autre aspect que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que c'est une révélation ouverte, c'est-à-dire qu'il est admis que de temps en temps, il puisse y avoir un rishi parmi nous. C'est-à-dire quelqu'un qui non seulement réussit à être sage, mais qui en plus a une qualité de sensibilité telle qu'il va être capable de parler au nom de l'absolu, quelque part, de transmettre quelque chose de l'absolu, d'être inspiré, de ne pas parler en son nom à lui, mais en quelque chose de plus grand. Et du coup, eh bien, c'est comme ça que, siècle après siècle, il y a des textes qui s'ajoutent au Veda. Alors, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, mais alors, qui décide, hein, c'est la grande question. C'est une question très, très occidentale, puisque nous sommes habitués à ce qu'il y ait un chef. Hein, il y a le pape, il y a une église qui est organisée, et puis ce sont les autorités spirituelles qui devraient décider. L'hindouisme n'est pas organisé comme ça. Il n'y a pas un pape de l'hindouisme. Il y a des figures spirituelles importantes, mais justement, c'est des figures, donc c'est pas unifié. Et donc, quand j'avais posé cette question à mon prof de sanskrit, qui s'appelait Jean Varenne, il m'avait dit, mais qui décide chez nous qu'une toile ou une sculpture est une œuvre d'art? Alors, au départ, oui, il suffit d'avoir un peu de notoriété, et on barbouille quelque chose et tout le monde s'extasie. Bon, enfin, paraît-il, moi, je ne connais pas beaucoup de monde de l'art. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est le temps qui fait son œuvre. Quelque chose qui était très à la mode il y a deux siècles, aujourd'hui plus personne regarde ça, ou alors quand on fait des histoires de l'histoire de l'art, c'est intéressant de savoir qu'à l'époque c'est ça qu'on trouvait beau. Mais en fait, ça ne fait pas l'unanimité. Alors qu'il y a des œuvres,
la musique classique,
par exemple. La musique classique, c'est vrai pour tous les arts, hein, qui, plus le temps passe et plus il y a une espèce d'unanimité. Ah oui, face à tel tableau, face à tel morceau de musique, face à telle architecture, eh bien, on est touché. On sent que ça a intrinsèquement, ça transmet intrinsèquement de la beauté.
Ça D'accord? fait toucher quelque chose d'universel, finalement.
Voilà. Quand ça touche. Voilà. Eh bien, ça, c'est aussi quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup dans la tradition hindoue, c'est que les vérités ne sont pas vraies parce que c'est un sage ou un autre qui les a dites. Elles sont vraies parce qu'elles sont universelles. Et donc, peu importe que ça soit un tel ou une telle qui l'ait formulé. Ça peut avoir un intérêt anecdotique de savoir que c'est tel sage dans tel contexte, qui a dit telle parole. Mais c'est beaucoup moins centré sur la personne que sur le message. Alors que nous, dans la tradition chrétienne, et c'est vrai pour les autres traditions, c'est la personne qui exprime la sagesse, elle est au moins aussi importante que le message. Le Christ, bien sûr, son message est important, mais c'est spécialement important parce que c'est lui qui l'a dit. Et s'il y a un grand mystique qui a dit des choses, mais oui, c'est intéressant, mais c'est pas au même niveau que le Christ. Voilà. C'est vrai pareil dans le bouddhisme. Les paroles du Bouddha, elles sont, disons, au pinacle. Il ne peut pas y avoir mieux du point de vue bouddhiste. Alors après, il y a les paroles des maîtres bouddhistes qui viennent expliquer, compléter, etc. Mais ça n'a pas la même autorité. Oui.
Alors même que Jésus et le Bouddha ont bien spécifié qu'ils ne voulaient pas être eux mis en avant, mais plutôt oui. leur parole, ou dire vous êtes tous
oui.
on est tous égaux et on est tous à même.
Mais c'est beaucoup plus difficile dans une tradition où il y a une seule parole qui est qui est la parole d'origine. Là, je suis ici, c'est la connexion a coupé. Donc,
Recording in progress.
Oui. Donc, bon, moi, j'espère qu'ils vont récupérer du son. Voilà. Et je disais que donc ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et qu'une tradition puisse être fondée sur l'universalité de ce qu'elle transmet, plutôt que sur la figure de celui qui transmet. Donc, voilà.
Et les textes les plus récents, ça vient de quoi ?
Ah, on y vient. Alors, voilà, je me suis fait un petit plaisir. Une analogie avec la Bible, que vous connaissez bien sûr beaucoup mieux que les Védas. Bon, on peut dire que d'un certain, enfin, c'est des analogies, mais on peut dire que les rishis védiques, c'est un peu l'équivalent des prophètes bibliques. Les prophètes bibliques, c'est aussi des êtres d'une sensibilité particulière, qui sont médiums et que c'est Dieu qui parle à travers eux. Alors, dans le cadre de l'hindouisme, on ne va pas dire que c'est Dieu qui parle à travers les rishis, parce que la notion de Dieu est beaucoup plus floue, hein, et il n'y a pas un Dieu personnel, c'est le divin, c'est voilà. Mais c'est quand même un peu, il y a quand même quelque chose de comparable, c'est-à-dire que ça vient de plus profond que le psychisme humain, plus profond ou plus haut, selon l'analogie que vous voulez prendre. Alors, ben, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais je le redis. Pour ceux qui sont des familiers de la Bible, il y a deux parties dans la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et est-ce que ce sont deux parties qui font 50-50 ? Hein ? Ceux qui connaissent un tout petit peu la Bible, vous savez que ce qu'on appelle le Nouveau Testament, c'est tout maigre par rapport à l'Ancien Testament. Hein, je n'ai jamais mesuré, mais c'est
10%.
10%, 10%. Voilà. Eh bien, on retrouve, on peut dire qu'il y a à peu près la proportion, je ne la connais pas, mais la même différence entre ce qu'on appelle le karma kanda, c'est-à-dire la partie du Veda qui traite des actes rituels à faire, hein, donc la partie liturgique, donc ce sont l'équivalent des prières, l'équivalent des hymnes à réciter quand on fait des rituels, etc. Et puis, la partie qui traite de la connaissance, jnana, c'est la connaissance. Voilà. Eh bien, donc, nous, comment dire, dignes de descendants qui nous intéressons au Vedanta, nous n'allons nous intéresser qu'à cette partie-là des Vedas, un peu comme si on s'intéressait à la tradition chrétienne, et que du coup, on se focalise, ce qui ne serait pas un mauvais choix, sur les évangiles. Disant, bon, le reste, ouais, bon, de temps en temps, il y a une petite allusion, j'essaie de comprendre pourquoi il y a telle allusion, mais le message du Christ, il se suffit à lui-même pour comprendre ce qu'est le christianisme. Bien, c'est un peu la même chose pour comprendre la métaphysique hindoue. Eh bien, il suffit de s'intéresser à la partie Jnana Kanda du Veda. Hein, et cette partie Jnana Kanda, c'est celle où se trouvent les Upanishads. Donc, je mets comme ça, vite fait, en parallèle, les Upanishads sont aux Védas, ce que les évangiles sont à la Bible. D'accord? Ça donne des points de repère. Il y a une grande différence qui est intéressante à noter et qui reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que les évangiles, il y en a quatre canoniques et puis il y en a un certain nombre apocryphes. Hein. Apocryphes, ça veut dire qu'ils n'ont pas été reconnus par l'Église, mais il y en a qui sont aussi anciens, hein, le fameux évangile de Thomas, par exemple, qui a fait couler pas mal d'encre au moment où, enfin, il y a quelques années, là, quand on l'a mis à la disposition du grand public. Voilà, donc c'est juste pour dire que dans la tradition chrétienne, il y a aussi plus que quatre évangiles. Il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Bon. Eh bien, des Upanishads anciennes, il y en a aussi une dizaine. Mais la différence, c'est que si vous prenez des évangiles, donc ils ont été écrits par une personne différente, Marc, Matthieu, Jean et Luc, hein, mais ils rapportent tous l'enseignement de la même personne. D'accord? Alors que les Upanishads, elles ont aussi été écrites par des écrites ou transmises par des rishis, mais l'enseignement est propre à chaque rishi. Et pourtant, il y a une unité. Donc, on retrouve cette idée que ce qui compte, c'est pas la personne, mais c'est le message. Voilà, donc c'est la différence entre les Upanishads et les évangiles. Les Upanishads, de temps en temps, alors il y a certaines Upanishads qui sont anonymes, on ne sait pas qui est à l'origine de cet Upanishad, et il y en a d'autres où il y a une petite mise en scène, donc on sait que c'est tel maître qui enseigne telle personne dans tel contexte. Voilà.
Et cette unité, du coup, c'est parce qu'il se plie à certaines règles ou bien, je sais
pas. Alors, ben c'est ça qu'on découvre avec émerveillement, c'est que le principe d'unité, c'est que ça parle de la réalité et que ça décrit de différentes manières la même réalité. Et donc, toutes ces Upanishads, elles conduisent à la même prise de conscience de ce que nous sommes vraiment. Et c'est ça leur unité. Autrement, la manière dont elles procèdent pour nous amener à la compréhension de nous-mêmes, elle est différente. C'est ça l'intérêt. Comme des chemins différents qui nous font déboucher sur la même vérité. Donc, 10 Upanishads majeurs. Pourquoi 10 Upanishads majeurs? Parce que ce sont les 10 qui ont été écrites avant notre ère. Et ce sont ces 10 Upanishads qui, physiquement, se trouvent à la fin des 4 livres. D'accord? Il y en a 2 ou 3 dans chacun des 4 livres. Et donc, c'est cette collection d'Upanishads qu'on appelle le Vedanta. C'est un des premiers sens du mot Vedanta qu'on trouve dans les textes, quand on dit, le Vedanta dit que, ça veut dire, dans la collection des Upanishads, il est dit que, ni plus ni moins. C'est le premier sens. Après, on va voir qu'il y a eu un autre sens qui s'est greffé là-dessus. Mais ça, c'est le sens littéral, c'est la fin des Védas, donc ça se trouve bien dans la fin des Védas. Alors, à partir d'environ le 6e siècle de notre ère, le 6e siècle avant notre ère, c'est-à-dire en gros à peu près à la même période où les philosophies se sont mis à se déployer en Grèce, Socrate et puis les gens qu'on appelle les présocratiques, c'est-à-dire des philosophes qui vivaient à peu près à son époque et dont on a gardé assez peu de documents, mais on sait qu'ils existaient. Donc c'est une époque où apparemment il y a eu un souci ou un intérêt dans l'humanité pour essayer de rationaliser les enseignements traditionnels, que ça soit moins de la poésie et de la, comment on va dire, une approche intuitive et sensorielle, et que ça soit davantage rationalisé. Donc, à peu près à la même époque, il s'est passé en Inde ce qui s'est passé en Grèce. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des sages qui se sont dit, mais c'est pas tout ça, c'est très beau, mais il faudrait réussir à exprimer ça d'une façon plus structurée. Et ça a donné lieu à beaucoup d'écoles, un peu comme en Grèce, où il y a beaucoup eu d'écoles philosophiques, mais il y en a quelques-unes qui sont devenues comment dire, majoritaires. Hein, le platonisme, l'école de Platon, l'école d'Aristote, l'école d'Épicure. Voilà, bon, il y a eu comme ça quelques grands noms qui ont traversé l'histoire. Eh bien, de la même façon, on parle classiquement de 6 grandes écoles philosophiques tirées des Védas, tirées tout spécialement de la collection des Upanishads. Et ces écoles, elles se sont trouvées en concurrence avec des écoles non védiques, parce que l'Inde a toujours été un terreau très riche pour l'exploration intérieure, et donc il y a, en particulier, c'est l'époque aussi du Bouddha. Le Bouddha, au départ, il était hindou, il avait une culture de base en hindouisme, et puis, bon, il a fait sa route tout seul, et puis, au bout du compte, une fois éveillé, il a dit, mais non, voilà, il y a plein de trucs là-dedans qui ne servent plus à rien, donc moi, je reformule, je crée une nouvelle tradition, en quelque sorte. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, les philosophes de ces 6 écoles se sont retrouvés, entre guillemets, en concurrence intellectuelle avec les philosophes bouddhistes. Et donc, il y a des débats entre les tenants de certaines écoles védantiques et les tenants de certaines lignées bouddhiques. Même chose avec le jainisme. Nous, on connaît moins en Europe le jainisme, mais en Inde, et au début de notre ère, le jainisme était aussi très très populaire. Il y avait de grands maîtres jaïnes, et eux aussi ont fondé une tradition indépendante de celle de l'hindouisme. Alors il y a des points communs, mais voilà. Donc nous, on va s'en tenir aux écoles philosophiques majeures hindoues. Donc c'est toujours bien, parce que, enfin bon, vous êtes à peu près au courant, mais les gens, quand ils découvrent que le bouddhisme, c'est pas l'hindouisme, pour eux, tout ça, c'est amalgame. En fait, évidemment qu'il y a beaucoup de points communs, et plus on se rapproche des enseignements ultimes, et plus c'est semblable, parce que c'est de nouveau pareil, ça parle de la réalité telle qu'elle est, donc la réalité telle qu'elle est, elle est telle qu'elle est, en effet. Hein, qu'on soit bouddhiste ou jaïn, ou etc. Mais c'est quand même bien aussi de ne pas mélanger les torchons et les serviettes, et de savoir à quel courant on appartient. Voilà. Donc,
l'hindouisme n'a jamais cherché à s'exporter, par contre.
Alors, l'hindouisme n'est pas une religion prosélyte. Oui. C'est tellement vrai que normalement, on ne peut pas se convertir à l'hindouisme. On est hindou, c'est un peu comme les juifs, je ne sais pas s'ils acceptent les conversions juives. Parce que ça se transmet par la naissance. Hein? Oui, alors il doit y avoir des... Mais voilà, c'est pas des religions prosélytes. Alors nous, c'est un peu étonnant, parce qu'on a l'impression que nous, on est dans une culture, puisque nous, on a la vérité, et il faut que tout le monde... Elle a même que nous.
Il y a quand même une exception pour l'hindouisme, c'est avec Bali qui est une île de l'Indonésie.
Oui.
Alors je ne sais pas pourquoi, il y a une historique.
En Indonésie, il y a des dieux hindous.
Oui, mais je ne suis pas sûr que ça soit. Je pense que c'est qu'ils ont immigré.
Ah oui, peut-être.
Il y a des communautés hindoues qui ont immigré. Voilà, je crois que c'est comme ça. Alors. Parmi ces six écoles philosophiques, pour pas vous raser de trop, je vais ce soir ne parler que de trois d'entre elles. C'est déjà beaucoup. La plus ancienne s'appelle l'école du Samkhya. Et elle a été fondée par un sage qui s'appelait Kapila. Alors, probablement vous en avez pas entendu parler, mais en fait, beaucoup des concepts qu'il a formulés ont été reprises par les autres écoles. Donc, quand on s'intéresse au Vedanta, bien sans le savoir, il y a plein de concepts qu'on utilise qui sont des concepts qui viennent du Samkhya. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que le Samkhya? C'est une réflexion. C'est comme si Kapila s'était dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ces Upanishads? Eh bien, en fait, il y a des informations cosmologiques sur comment l'univers a été créé. Eh bien, je vais systématiser ces informations pour en faire pour en présenter quelque chose de logique, de rationnel. Et si je comprends bien d'où je suis sorti, de quoi je suis composé, quels sont les différents éléments qui me composent, eh bien je vais avoir plus de facilité à me désengager de ce qui n'est pas réellement ma profondeur. Donc le Samkhya, c'est comme ça une explication cosmologique avec une méthode de désidentification. Un des apports clés du Samkhya, c'est de distinguer Purusha, la personne, le sujet, l'esprit, avec un E majuscule, de Prakriti, la nature, le monde matériel. Donc, la voie que propose Kapila, et vous voyez que il y a des éléments qu'on a repris à notre compte, c'est de se désidentifier de tout ce qui n'est pas l'esprit à l'intérieur de nous. De faire la distinction entre ce qui relève de la nature, notre corps, nos pensées, parce que pour Kapila, les pensées, le monde mental, c'est aussi de la matière, mais de la matière subtile. Et comme ça, il y a tout un processus de régression vers ce qui est purement spirituel.
C'est le Purusha. Ramana Maharshi, quand il dit qui suis-je, c'est qu'il dit je ne suis pas le corps, je ne suis pas.
Voilà.
C'est ce cheminement-là.
C'est ce cheminement-là. Et c'est en ce sens-là qu'on fait tous du Samkhya sans le savoir. Sauf que dans sa réflexion, Kapila, il en est resté à cette idée donc qu'il faut se dégager de la matière et que la réalité, elle a deux pôles. Un pôle spirituel, Purusha, et un pôle matériel, Prakriti. Donc c'est pour ça que c'est une philosophie dualiste. Alors c'est pas... Puisque ça sort des Upanishads, on pourrait dire que c'est une forme de Vedanta dualiste. Mais en fait, il ne faut pas le dire, puisque ensuite, historiquement, le Vedanta, c'est l'une des écoles. Et c'est à l'intérieur de cette école qu'il y a des explications dualistes. Mais on pourrait dire que le Samkhya, c'est une variante dualiste de ce qu'on trouve dans les Upanishads. Ça va, je ne suis pas trop confus. Première école à apparaître, école philosophique. Un peu plus tard, c'est-à-dire probablement aux alentours de deux siècles avant notre ère, il y a l'école dite du yoga. Mais il faut l'entendre ici, le mot yoga, au sens de courant philosophique et non pas en tant que pratique corporelle. La pratique corporelle, c'est un tout petit aspect de ce courant philosophique. D'accord ? Alors là, vous avez probablement entendu... Kapila, c'est un nom que vous ne connaissiez pas, mais Patanjali, il y a des chances pour que vous en ayez un tout petit peu entendu parler. De temps en temps, Arnaud citait Patanjali, et en particulier le texte de base de Patanjali s'appelle le Yoga Sutra. Sutra, c'est un type de texte. Donc, il y a le Samkhya Sutra, il y a le Yoga Sutra, il y a le Vedanta Sutra. C'est un type de texte qui présente d'une façon raisonnée un ensemble d'enseignements. Donc, Patanjali, dans ce texte du Yoga Sutra, il présente... Patanjali, du point de vue philosophique, il reprend le cadre du Samkhya. Ça lui va très bien. Et ce que lui retient des Upanishads, ce que lui retient de la fin du Veda, ce sont toutes les techniques d'ascèse. C'est ça ce qu'il privilégie. Et en particulier, il met en avant trois grandes techniques d'ascèse. La première, l'ascèse de désidentification. Donc là, il reprend le Samkhya et il dit oui, il faut faire comme ça, il faut se rendre compte que nous ne sommes pas nos sensations, nous ne sommes pas nos émotions. Premier type d'ascèse. Deuxième type d'ascèse, il dit oui, mais c'est très difficile à faire si on n'est pas aidé par la grâce divine. Donc, il faut pas hésiter à avoir recours à la foi et à Dieu. Patanjali introduit la notion d'un Dieu personnel avec qui on peut avoir une relation. Alors que dans le Samkhya, il n'y a pas de Dieu, c'est athée au sens non théiste. Alors que le yoga de Patanjali est théiste. Il propose comme aide à... comme technique d'ascèse, de prendre appui sur la foi en un Dieu personnel. Ça, c'est le deuxième aspect de ce qu'il y a dans les Yoga Sutras. Et puis, l'aspect principal, c'est ce qu'on appelle le Dhyana Yoga, c'est-à-dire l'ascèse de méditation. L'essentiel des Yoga Sutras, c'est de présenter... des méthodes de méditation et une démarche pour aller de plus en plus profond dans la méditation de façon à découvrir ce pur esprit qui est à l'arrière-plan de tous les phénomènes. Voilà, donc ça c'est ce que Patanjali a en quelque sorte tiré du Veda et spécialement des Upanishads. Alors, je vois qu'il y a de nouveau une connexion qui a été perdue. Espérons que ça revienne. Et pendant ce temps-là, troisième et dernière école dont je parlerai ce soir, c'est celle de l'Advaita Vedanta. Enfin, on trouve le terme. Qui a fait son apparition au début de notre ère. Donc c'est historiquement, d'après les indianistes, les hindous ne vont pas être d'accord avec ça, ils vont dire que ça existe depuis la nuit des temps, c'est apparu au début de notre ère, Badarayana ayant vécu soit au tout début de notre ère, soit peut-être les deux premiers siècles, on ne sait pas bien. Ah, alors tant mieux pour vous si vous revoilà, je suis vraiment désolé de cette instabilité de connexion. Et Badarayana, lui, ce qui l'intéresse dans les Upanishads, ce sont avant tout les passages qui décrivent la réalité ultime. Voilà. Bon, alors donc, je leur enverrai l'enregistrement audio, parce que malheureusement, c'est très décevant. Donc je vais vous parler brièvement de Badarayana, dont vous avez très probablement jamais entendu parler, alors que c'est en fait le père de l'Advaita Vedanta. On ne sait pas bien à quelle époque il a vécu, mais voilà, les indianistes disent c'est sûrement après les autres, parce que dans son texte, il parle des autres écoles. Donc il faut... Et il est nécessaire qu'elles aient existé pour qu'ils puissent en parler. Donc, aux alentours, au plus tard, deux siècles après notre ère. Et il a rédigé un ouvrage, enfin le seul qui soit parvenu jusqu'à nous, il a probablement écrit autre chose, mais il a rédigé un ouvrage majeur qui est une exégèse, c'est-à-dire une explication du contenu des Upanishads du point de vue védantique, du point de vue advaitique plutôt, du point de vue de la non-dualité. Alors, cet ouvrage s'appelle les Brahma Sutras, ou aussi on dit le Vedanta Sutra. Et pour vous en donner un tout petit aperçu, il y a quatre parties dans cet ouvrage. La première partie, qu'est-ce que le réel ? Et le réel, en termes sanskrit, c'est le mot Brahman. Qu'est-ce que le Brahman ? Qu'est-ce que c'est ? Donc, il passe en revue les parties des Upanishads qui parlent du Brahman et il explicite. Dans une deuxième partie, il dit en quoi les autres écoles sont insuffisantes pour bien comprendre ce que c'est que le Brahman. Donc, on trouve une critique philosophique du dualisme du Samkhya et de certains aspects du yoga de Patanjali. Et puis, la troisième partie, qui serait la plus intéressante s'il fallait un jour qu'on étudie le Brahma Sutra, mais c'est assez costaud philosophiquement. Qu'est-ce que c'est que la sadhana du point de vue de l'Advaita Vedanta ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à la réalisation du Brahman ? Et la dernière partie, qu'est-ce que c'est que la libération ? Qu'est-ce que c'est que moksha du point de vue de l'Advaita Vedanta ? Donc vous voyez que c'est un ouvrage fondateur pour notre courant. Alors, ce courant, historiquement, s'est continué. Il y a eu, génération après génération, des maîtres de l'Advaita Vedanta issus de Badarayana. Mais,
justement, quand tu parles de courant, les autres courants sont suivis aussi.
Bien sûr.
On a un quantitatif, on connaît les noms.
Non. Oui, mais les écoles, enfin, les écoles de yoga peuvent dire, ben voilà, il y a tel maître, puis après il y a tel maître, il a écrit telle chose, etc. Voilà. Pareil dans le Samkhya, dans les grandes branches comme ça, il y a des successions. Dans la branche de l'Advaita Vedanta, il y a eu un gap, un trou. Non pas qu'il n'y ait pas eu des maîtres, mais on a perdu leurs écrits. Et ce n'est que entre Badarayana le suivant, c'est 7e siècle. Donc il s'est passé au moins 5 siècles. Il y a des noms, il y a des bribes, mais il n'y a pas de texte suffisamment complet pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'ils enseignaient et en quoi c'était original, ou etc. Le second texte qu'on ait date du 7e siècle, et c'est un certain Gaudapada qui, lui aussi, il a probablement beaucoup écrit, mais il n'y a qu'un seul texte qu'on ait conservé, c'est son commentaire à une des Upanishads. C'est un commentaire assez génial, et du coup, Gaudapada, il est passé à la postérité à cause de son commentaire sur la Mandukya Upanishad. Voilà pour Gaudapada. Alors, il a eu des disciples, et parmi ses disciples, il a eu un disciple qui s'appelait Govindapada. Celui-là, il n'a rien écrit de spécial, et si on garde son nom, c'est parce que Govindapada a été le maître de Shankara. Nous voilà enfin rendus à Shankara. Donc, il est un lointain continuateur de Badarayana, et qui est c'est à partir de Shankara que l'école de l'Advaita Vedanta va devenir extrêmement célèbre en Inde et va bon gré mal gré influencer toute la pensée indienne, ce qui fait que après Shankara, alors, il va y avoir il va avoir des disciples, donc son enseignement va se continuer, mais son enseignement aussi, il va imprégner les autres écoles. Ce qui fait que quand on s'intéresse à des textes, par exemple, du yoga, qui sont postérieurs au 8e siècle, eh bien, il y a plein de notions qui viennent du Vedanta. Et dans ce qu'on enseigne sous le nom de yoga aujourd'hui, il y a plein de notions qui viennent du Vedanta. Là, beaucoup de professeurs de yoga diront, oui, le yoga, c'est non dualiste. Il y a que, voilà. C'est pas vrai du point de vue historique. Le yoga de Patanjali n'était pas non dualiste, mais ça l'est devenu parce qu'il y a eu une interpénétration des courants.
C'est quoi l'image?
Alors c'est Gaudapada, enfin c'est une statue, parce que les images, les photos marchaient mal. Alors voilà aussi une représentation classique de Shankara, et je vais vous parler un petit peu donc de l'Advaita Vedanta de Shankara. Donc mine de rien, c'est le deuxième point, j'ai trois parties, là ça y est, on rentre dans la deuxième partie. Donc c'est l'exposant le plus célèbre du Vedanta non dualiste, de l'Advaita Vedanta. Donc il a vécu aux alentours du 8e siècle, alors c'est très flou là aussi, il y a des dates qui sont données, mais du point de vue des universitaires occidentaux, ces dates ne sont pas fiables, se contredisent, etc. Bon. Mais il a été spécialement remarqué à son époque pour qu'on lui donne de son vivant le titre d'Acharya. Et Acharya, ça veut dire instructeur. Donc parfois, qu'il soit appelé Shankara, il est appelé Shankaracharya. Shankaracharya, c'est-à-dire l'instructeur de Shankara. Donc comme je le disais tout à l'heure, il a marqué de façon indélébile toute la culture de l'Inde, au point qu'aujourd'hui encore, l'essentiel de la spiritualité indienne est directement ou indirectement inspiré de lui. Je ne sais pas, moi, si on prend Manandamayi, elle n'a pas formellement été initiée au Vedanta par un maître védantique, etc. Mais, et donc elle parle, elle est capable de parler un langage dévotionnel à certains moments, mais quand elle parle un langage métaphysique, elle parle le langage de l'Advaita. Parce qu'en fait, c'est le langage ultime. Donc parce qu'ils ont gagné dans des disputes, c'est parce que quand on veut vraiment parler de la réalité ultime, on arrive forcément à utiliser le langage de la non-dualité. Alors, selon la légende, du point de vue historique, évidemment, c'est très difficile à vérifier, sa vie fut très courte, puisqu'il serait mort à l'âge de 32 ans. Et donc, ça, un tout petit peu plus tôt que le Christ, mais c'est quand même les mêmes proportions. Et comme le Christ, sa vie a été excessivement remplie. Alors, remplie de quoi? D'abord, il a fait une œuvre littéraire monumentale, dont je dirai un petit mot. Ensuite, il a été un prédicateur, et à tort ou à raison, c'est à son influence qu'on attribue le fait que le bouddhisme a été est décliné en Inde et finalement est disparu de l'Inde. Jusqu'au 6e, 7e siècle, il y avait une bonne partie de l'Inde qui était bouddhiste. J'ai au moins entendu parler de l'empereur Ashoka, qui pendant un temps a été un empereur très important en Inde. Donc il était bouddhiste et donc du coup c'était la religion officielle. Et puis, il y a eu de nombreuses raisons, mais parmi les raisons évoquées, eh bien, il y a le fait que Shankara a, en quelque sorte, redonné ses lettres de noblesse à la tradition indienne, et que du coup, les hindous se sont dit, bah, en fait, c'est, oui, c'est plus ça que le bouddhisme. Et du coup, le bouddhisme a quitté l'Inde et s'est importé, ou exporté plutôt, à Ceylan. Hein, en quelque sorte, c'est comme si c'était réfugié à Ceylan, puis réfugié au Tibet. Puis de là, ça s'est exporté en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient. Voilà. Donc c'est pour ça que la figure de Shankara est prisée des nationalistes hindous, parce que voilà, il a redonné à la tradition hindoue ses lettres de noblesse. Il a aussi, au cours de ses pérégrinations, il a fondé 4 monastères dans les 4 points cardinaux de l'Inde. Et il a fondé des ordres monastiques, 10 ordres monastiques. Et il se trouve que depuis le 8e siècle, ces monastères existent toujours. Actuellement en Inde, il y a toujours 4 monastères qui sont considérés comme... la prolongation de l'œuvre de Shankara. Et d'ailleurs, le chef ou le maître qui est à la tête de ces monastères porte le titre de Shankaracharya. Donc actuellement en Inde, il y a 4 personnes qui s'appellent le Shankaracharya de tel endroit, et avec un nom après. Voilà. Et ces Shankaracharyas sont tous capables de montrer leurs annales, comme quoi, avant moi, le Shankaracharya, dont j'ai pris la succession, il s'appelait un tel, il a vécu de telle date à telle date, avant. Et ils ont comme ça une généalogie qui remonte à Shankara. Là aussi, les indianistes disent « ouais, c'est cousu de fil blanc ». Mais pour les hindous traditionnels, c'est très sérieux. Et voilà, c'est un peu comme si on fait la généalogie des papes. Moi, je ne sais pas, je ne me suis jamais penché. Est-ce que, disons que les derniers siècles, on a vraiment des preuves historiques, mais les premiers siècles, sur comment savoir si c'est vrai, si ça a été. Voilà. Mais en tout cas, c'est pour vous faire sentir que, du point de vue hindou, c'est vraiment une figure importante. Donc, malheureusement,
C'est pas un monastère, un monastère.
Alors, la différence entre un monastère et un ashram, oui. C'est que Shankara, quand il a fondé des monastères, c'est que c'est très proche d'un monastère chez nous. C'est-à-dire que dans ces 4 monastères, il n'y a que des gens ordonnés, sannyasins, moines, qui peuvent y séjourner. Accéder à certains enseignements, etc. Donc il y a évidemment une petite ouverture sur le public. Il y a des Occidentaux qui ont été dans certains de ces monastères. Nous avons été avec Anne-Marie auprès de l'un des Shankaracharya. Voilà. Alors, c'était un peu toute une aventure. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous raconter, mais je le ferai volontiers une autre fois. Parce qu'il fallait se faire accepter, et voilà, c'était pas courant, quoi. Donc on a vu l'un des Shankaracharya, on a eu sa bénédiction, et on a eu l'impression que c'était très efficace. Parce qu'après, il s'est passé des choses dans notre vie qui étaient des choses auxquelles on aspirait, mais qui sont arrivées, on a mis en lien avec le fait de cette bénédiction qu'on avait reçue. Voilà, donc, je vais vous raconter maintenant la biographie de Shankara, mais donc c'est à prendre avec... c'est une légende, en fait. Mais c'est une belle légende. Et en préparant ça, je me dis, après tout, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Est-ce que c'est une légende inspirante ou est-ce que c'est la vérité prosaïque? Voilà, il s'est coupé avec... avec un couteau, je sais pas quoi. Alors il y a deux choses. Qu'est-ce qui est inspirant? Et d'autre part, cette réflexion que je me suis faite aussi, c'est que pour qu'une légende existe, il faut des éléments. Ça part de quelque chose. Alors c'est amplifié, c'est embelli, c'est etc. Mais s'il n'y a rien, si c'est quelqu'un d'ordinaire, on ne va pas vous dire que le troisième jour, il est ressuscité, il est sorti du tombeau, etc. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il faut forcément que le Christ soit un personnage d'une qualité particulière pour que on ait de la matière à construire une légende. Si c'est le premier paysan venu, qu'est-ce qu'on aura? Il n'y a rien, il ne se passe rien. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que moi je ne rechigne pas devant cette légende que je vais vous raconter. Et donc qui se trouve, qui a été écrite plusieurs siècles après sa mort. Hein, il y a des ouvrages qui racontent la vie de Shankara, mais ils datent du XIIe siècle. Et non pas du 8e. Donc, alors ben, les hindous vont dire oui, mais pendant 4 siècles, on a raconté, puis un beau jour, il y a quelqu'un qui a dit ben, j'écris, puisque on va. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a raconté pendant tout ce temps? Eh bien, donc la date de naissance est totalement improbable, enfin je dirais pas du tout assez certaine, mais bon, on va dire qu'il serait né aux alentours de l'an 740. Au Kerala, chez un couple de brahmines, c'est-à-dire de gens appartenant à la caste des brahmanes, la caste sacerdotale, et ce monsieur et cette dame qui étaient très pieux se désolaient parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Alors, ils ont décidé un beau jour de faire un pèlerinage dans un grand centre shivaïte à Trichouri, et puis il ne s'agissait pas de faire juste on y va, on fait des prières puis on rentre. Non, on y va et on fait le siège, c'est-à-dire que tous les jours on vient prier la divinité pour qu'elle nous accorde une descendance. Donc ils ont fait une ascèse longue de plusieurs semaines, plusieurs mois, voilà. Et puis, ils étaient tellement intenses dans leurs demandes qu'un beau jour, Shiva leur est apparu. Et il leur a dit, bon alors qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez beaucoup d'enfants ordinaires ou est-ce que vous voulez un fils extraordinaire, mais qui aura une vie courte? Alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Hein? Voilà, faites au mieux pour le bien de l'humanité, ils ont dit. Et alors, la mère de Shankara s'est retrouvée enceinte d'un petit, et a donné naissance à un petit garçon. Et voilà. Sauf que son père est mort très jeune, donc il s'est retrouvé orphelin à l'âge de 3 ans, 3, un truc comme ça. Derrière cette légende, il y a l'idée que, en fait, la foi des parents était tellement grande que c'est Shiva lui-même qui s'est incarné dans leur fils, et donc Shankara serait un avatar, c'est le mot sanskrit pour dire incarnation, un avatar de Shiva. D'accord? Donc, pas de chance, il perd son père à l'âge de 3 ans. Et alors, son père ne peut pas lui enseigner le Veda, et donc sa mère le met très jeune, à l'âge de 5 ans, dans une école védique. Alors, les écoles védiques, je pense que si vous avez vu des reportages sur les écoles musulmanes en Afghanistan, je pense que ça devait être un peu pareil. C'est-à-dire qu'on fait répéter par cœur, sans arrêt, des textes pour que les enfants les mémorisent. Et voilà. Et Shankara, qui avait des talents tout à fait hors normes, il avait des capacités de mémoire qui sont un peu l'équivalent de Mozart chez nous, hein, qui tout de suite, à 5 ans, compose de la musique, il entend quelque chose, il rejoue, etc. Et bien là, très très vite, Shankara, il apprend par cœur, enfin, il suffit qu'il récite une fois, il connaît par cœur. Donc, en quelques années, il connaît tout le Veda par cœur. Voilà, donc les professeurs lui disent, bah, ça y est, t'as fini, tu rentres chez toi. Donc, il se retrouve chez lui et il commence à être animé de l'intérieur par quelque chose. Et donc, il compose des chants, des poèmes, etc. Du coup, il y a des ascètes qui entendent parler de lui, qui viennent le voir, qui le trouvent rayonnant et tout ça, et qui disent, mais il ne faut pas qu'il reste là, il faut qu'il vienne avec nous, on a trouvé notre maître. Donc, ils vont trouver la mère de Shankara, ils disent, mais voilà, votre fils, vous voyez bien, c'est pas un fils normal, il n'a rien à faire chez vous. Alors, voilà, la maman, il a 7 ans, 8 ans, non, je ne veux pas que mon fils s'en aille. Alors, Shankara essaye d'amadouer sa mère en disant, mais tu vois bien que voilà, je ne suis pas fait pour une vie ordinaire. Laisse-moi partir avec ces sadhus là qui vont continuer à assurer mon éducation. Et puis, voilà. Sa mère dit non, c'est pas possible, tu es mon seul fils, etc. Bon. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, un beau jour, Shankara se baigne dans la rivière qui est juste au pied de l'endroit où il vit avec sa mère, et un crocodile lui attrape la jambe. Et là, il dit, au secours, maman, il faut que tu me donnes le droit de devenir moine, sinon je vais être mangé par le crocodile. Alors, qu'auriez-vous fait, vous qui êtes mère? Hein? Voilà. Eh bien, donc... Voilà, l'image. Donc, à son corps défendant, la mère de Shankara lui dit, d'accord, mon fils, je te donne la bénédiction. Et évidemment, le crocodile lâche sa prise et Shankara retourne sur la berge. L'histoire ne dit pas quelle était la profondeur de ses blessures, mais bon, il a marché normalement parce qu'il a fait 3 fois le tour de l'Inde à pied. Pour ses prédications. Voilà. L'épisode du crocodile. Ça, c'est la prime enfance. Alors ensuite, eh bien, donc, il est éduqué par ce groupe de sadhus, de moines itinérants, qui en même temps le considèrent déjà comme leur maître par la qualité de sa présence. Mais voilà, même s'il connaît le Veda par cœur, il y a encore plein de choses qu'il ne connaît pas. Et il sent à un moment donné qu'il est important qu'il rencontre un maître pleinement réalisé. Et donc, après une itinérance de quelques années, ils arrivent sur les berges d'une rivière qui s'appelle la Narmada. Et là, ils entendent parler d'un ascète qui s'appelle Govindapada, et qui est donc le disciple de Gaudapada, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, il paraît que c'est un être pleinement réalisé, mais en fait, il vit en solitaire, et il ne veut pas avoir de disciple, et donc il est d'approche très difficile. Alors, comme Shankara vraiment l'aspiration à rencontrer cet homme, il se dit, c'est pas grave, j'y vais quand même, et n'écoutant que son courage, il rentre dans la grotte où se trouvait Govindapada en méditation. Alors là, voilà la grotte, et voilà Shankara qui rentre dans la grotte. Alors là, Govinda l'accueille un peu fraîchement, et lui, en particulier, il dit, qui es-tu? Sous-entendu, qui es-tu pour oser venir me déranger? Et alors là, Shankara, au lieu de répondre comme on aurait fait, je m'appelle Shankara, j'ai 12 ans et demi, et je... etc. Shankara lui sort un poème, et lui répond sous forme de 6 strophes qui il est. Et alors ce poème est tellement... magnifique, que Gaudapada se dit, mais en fait, cet enfant est déjà éveillé. Donc, je ne peux pas ne pas l'accueillir et lui transmettre ce que je peux lui transmettre pour qu'il puisse jouer son rôle dans le monde. Donc il devient l'élève de Gaudapada grâce à ce poème que nous allons nous offrir en troisième partie de cet atelier. Et suite à ça, donc il le garde auprès de lui un certain temps, et puis il lui dit, bon ben voilà, maintenant il faut que tu finisses ta formation philosophique, donc tu vas étudier les autres darshanas, tu vas aller à Bénarès, je te donne les adresses, tu vas rencontrer des maîtres de ces autres écoles pour que tu familiarises et qu'ensuite tu puisses faire une synthèse, etc., et écrire ton œuvre, puisqu'il sentait que Shankara avait une vocation à écrire une œuvre majeure. Et en effet, donc Shankara a écrit à Bénarès, dit-on, une somme qui s'appelle la triple voie d'accès à la sagesse. Alors je vous en parlerai peut-être une autre fois, parce que c'est un texte assez complexe. C'est en fait un commentaire des Upanishads, de la Bhagavad Gita et du Brahma Sutra. Donc c'est pas un livre, c'est des commentaires sur des textes déjà existants. Et le fil conducteur, c'est de montrer que tous ces textes ne visent qu'à une chose, c'est à nous éveiller. Et qu'il faut les utiliser comme technique ou comme, on va dire, support pour notre éveil. C'est ça, en quelques mots, le message ou la ligne rouge de cette somme écrite par Shankara. Voilà. Alors donc, ça s'appelle les six stances sur le soi, ou moi j'ai marqué ça, pour que ça soit plus explicite, j'ai dit six stances en réponse à la question du qui suis-je. D'accord ? Donc je vais vous donner le texte. Et on va le lire ensemble, et même l'écouter une fois, si vous voulez, en sanskrit, chanter. Alors, je ne sais pas si on commence par écouter le chant et qu'on lit après, ou qu'est-ce que vous préférez ?
On l'écoute d'abord.
On l'écoute d'abord, ça va changer un petit peu. Voilà. Bon, alors, chers amis, je ne sais pas trop comment faire pour... je vais le mettre en audio sur mon téléphone, parce que comme ça, peut-être que vous allez l'entendre.
Il faut mettre plus de lumière.
Ah oui, oui. Je pense que ça va revenir. Mais...
La fibre.
La vertèbre. La fibre. On a un autre type de fibre, mais pas celle-là.
Ma chèvre. Vayu Chidanandaru.
C'est ça le refrain, Chidanandaru. Et ça, c'est le mont Kailash, la montagne de Shiva. Ou ça vous suffit? Ça va, hein? Oui, voilà. Oui, 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 bien sûr. Oui, je vous enverrai le lien. Enfin, le lien, il est dans le... Alors, je ne suis pas sûr qu'ils ont... que ça marche encore, mais écoutez. Hein.
Il y a le lien, par contre.
Ah oui, non, ça a coupé, hein.
Mon téléphone, il déconne.
Ah. On va voir s'ils y sont encore. Mais... non, ils ont arrêté.
Ils ont abandonné.
Ils ont perdu. Hein.
Ouais.
Ils ont rien dit.
Ouais. Ah, ils se sont évaporés dans les têtes.
Il n'y a plus de connexion.
Mais c'est ça, ils ont dû partir, ils ont été coupés par le passé de
raison. Voilà, alors. Donc, si vous voulez, on va lire ensemble et essayer d'entrer un peu dans ce texte. Et vous allez voir, comme je disais au début, que c'est vraiment un condensé philosophique remarquable. Alors, donc, hein, on lui a demandé de dire qui il était. Alors, il commence par répondre. Eh bien, je ne suis ni le mental, ni l'intelligence, ni l'ego, ni la mémoire. Et ça, ces quatre termes-là, vous les connaissez, ce sont des termes védantiques empruntés au Samkhya pour décrire le psychisme humain. Le psychisme humain est décrit avec ces quatre mots. Manas, c'est la rationalité, les pensées linéaires. Buddhi, c'est l'intelligence intuitive, qui fait qu'une fois que j'ai bien réfléchi à un truc, je sais ce que je vais faire, ou ce que je vais dire, ou voilà, Buddhi. Hamka, c'est je, c'est moi qui sais ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, ou qui pense. Et Chitta, c'est la réserve de connaissances, la mémoire, le fameux Chitta Shuddhi, qu'il nous faut purifier. Hein, voilà. Donc, il commence fort puisqu'il dit, eh bien, je ne suis aucune des instances qui forment le psychisme et qui forment l'identité habituelle. Habituellement, oui, moi je suis moi, et puis j'ai derrière moi toute l'histoire de ma vie, mes souvenirs, et puis je suis capable de tenir un langage cohérent, puis de temps en temps, j'ai un éclair de génie, et je me dis non, je me trompe, voilà. Donc ça, tout ça, il dit, je ne suis pas ça. Et il continue, je ne suis pas non plus mes oreilles, hein, le sanskrit c'est les oreilles, la langue, le nez et, la vue. Donc, je ne suis pas non plus mes organes des sens, et je ne suis pas non plus ce que ces organes captent, c'est-à-dire la perception de l'espace. Alors il y a un lien dans la philosophie indienne entre les sens et les éléments de la nature. Nos oreilles, c'est ce qui nous permet d'avoir une notion de l'espace. Les yeux, c'est ce qui permet d'avoir... c'est en lien avec la lumière, l'élément feu. L'élément feu, mais c'est l'élément lumineux. Donc, il y a une mise en relation entre les quatre sens qui sont nommés et les quatre éléments. Alors, vous allez me dire, pourquoi il n'y a pas cinq sens ? Et pourquoi, du coup, il n'y a pas cinq éléments ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un poème et qu'il y a un nombre de pieds à respecter. Donc, il n'a pas pu placer les cinq. Hein. Voilà. Mais c'est quand même ça l'idée. Donc, je ne suis pas mon psychisme et je ne suis pas ce que ce psychisme capte comme son, comme goût, comme odeur, comme forme, vision de forme, etc. Donc j'ai traduit ça, donc je ne suis ni le ciel, ni la terre, la lumière ou l'air. Hein, et j'ai mis quand j'ai mis un truc entre parenthèses, c'est des trucs que j'ai rajoutés, qui ne sont pas dans le texte. Ah bon, alors si tu n'es pas ton psychisme, si tu n'es pas tes instruments sensoriels, qui es-tu? Eh bien, le sanskrit dit chit, ananda, rupa. Alors du coup, j'ai fait la traduction en respectant l'ordre des mots. Je suis quoi? Je suis conscience, ananda, béatitude, et rupa, ma vraie nature. Donc j'ai traduit, telle est ma vraie nature. Mais le sanskrit, il dit juste conscience, béatitude, ma nature. Ma nature, c'est conscience et béatitude. Et c'est même pas conscience et, parce qu'en sanskrit, le mot et, c'est cha, et il n'y est pas. Donc c'est conscience, béatitude. Ça veut dire que ce sont les deux faces d'une même réalité. Quand on est vraiment conscient, cette conscience est sereine. Quand on est vraiment serein, c'est qu'on est conscient. Pour de bon.
Et pourtant, on a les koshas que présente Arnaud.
Oui.
Ananda Maya Kosha.
Oui.
Il n'est pas l'ultime.
Ananda Maya Kosha.
C'est encore l'ultime, quoi.
Alors. On va voir la réponse dans la suite du texte. Mais ta remarque est tout à fait pertinente. Donc, deuxième strophe. Ah oui, alors, pardon, merci. Voilà. Donc, qui es-tu? Conscience et béatitude et ma nature. Shivoham, Shivoham. Alors, ça veut dire je suis Shiva, je suis Shiva. Alors là, si on entend ça au sens littéral, bon, c'est décevant. Donc il dit, donc s'il est Shiva, il n'est pas Vishnu. S'il n'est pas Vishnu, il n'est pas... voilà, il est une divinité. Donc il faut savoir que le mot Shiva, avant de désigner un dieu, c'est un substantif, c'est un mot qui veut dire, j'ai traduit ça, le principe de tout bien. C'est ça que ça veut dire Shiva. Il y a des textes où on dit Shivam, Shantam, je suis paisible, je suis... Il n'y a pas vraiment de mot en français. Le mot qu'on trouve dans les textes, c'est auspicieux, mais auspicieux, ça ne nous parle pas. C'est je suis la source de toute bénédiction. Mais vous voyez, pour traduire un mot, je fais une périphrase. Mais c'est ça que ça veut dire Shiva. C'est la source de toute bénédiction, avant d'être le nom d'un des dieux. Donc quand il dit « je suis Shiva », il ne dit pas « je suis l'un des dieux et donc je ne suis pas les autres ». Il dit « je suis conscience et béatitude, je suis la source de toute bénédiction ». C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Enfin, on peut l'entendre, voilà, les Shivaïtes, ils vont l'entendre comme « ah, il est notre dieu ». Mais si on veut que ça nous parle à nous, il faut Voilà. Et alors, pourquoi Shivoa mais pas Shiva Am? Parce qu'en fait, le sanskrit, comme les mots langues à nous, quand il y a deux voyelles qui sont proches, ça se télescope. On ne dit pas je vais à le marché, on dit je vais au marché. Bien là, le sanskrit, c'est Shiva et Aham. Aham, c'est je suis, donc c'est je, et Shiva, voilà. Mais Shiva, A-A, Shiva Aham, ça devient Shivoham. Les deux A se transforment en O. D'accord ? Deuxième stance ou deuxième strophe. Donc, sous-entendu, il répond toujours « je ne suis pas » ce que je ne suis pas. Alors, je ne suis pas les sensations respiratoires, ni les cinq sortes d'énergie qui animent le corps. Alors, ceux qui font connaissent un peu le yoga et fait un peu des études dans les textes classiques du yoga, on parle de cinq types d'énergie qu'on appelle les vayus. Alors, pas forcément rentrer dans les détails, mais en gros, c'est l'énergie qui nous fait inspirer, c'est l'énergie qui nous fait expirer, c'est l'énergie qui fait circuler notre sang dans le corps, c'est l'énergie qui fait circuler notre bol digestif, et puis c'est l'énergie qui nous réveille le matin ou qui nous fait nous endormir le soir. Ces cinq modalités d'énergie, il dit, je ne suis pas ma respiration, ni les énergies qui sont générées par ma respiration. Donc là, il est en train de dire qu'il n'est pas le corps subtil. D'accord ? Il a dit qu'il n'était pas le psychisme, il a dit qu'il n'était pas non plus les sens. Maintenant, il dit, je ne suis pas non plus le corps subtil, et en particulier le corps énergétique. Je ne suis pas non plus les sept composants corporels. Alors, c'est quoi ces sept composants corporels ? J'ai cherché dans un livre, je ne savais pas. Alors, le chil, c'est le bol alimentaire. Le sang, la chair, les os, la graisse, la moelle et le sperme. Ou, j'imagine, le système ovarien. Enfin, ce que produit les ovaires. Voilà. Donc, ce sont ça les composants corporels. Eh bien, il dit, je suis pas ces composants corporels. Et, on en arrive à la question d'Alain, je ne suis pas les cinq koshas. Donc je ne suis pas non plus un Anandamaya Kosha. Alors on ne va pas forcément avoir le temps d'entrer dans ce détail, mais dans le Vedanta classique, donc, tel que Shankara le transmet, le revêtement fait de béatitude, c'est le bien-être qui se reflète en nous quand on est, en tant qu'individu, en contact avec plus grand que nous. Donc c'est le reflet, mais ça n'est pas la racine, la source. La racine, la source, c'est Ananda sans Kosha. Et Ananda avec Kosha, c'est le reflet dans notre univers à nous de limite. Hein, même si c'est une limite très fine, c'est encore c'est moi qui ressens cette béatitude.
Il y a encore le jeu.
Voilà. Donc vous voyez que si on voulait, si on avait le temps et que ça nous intéressait, on pourrait prendre chacun de ces versets et puis faire tout un enseignement là avec le deuxième verset, ni les sept composants corporels, ça serait du côté de la médecine ayurvédique qui nous expliquerait quels sont ces composants, comment ça interagit sur le psychisme, etc. Ni les cinq revêtements du soi, et bien là, hop, je vous donne le livre d'Arnaud, le chapitre, c'est dans le premier tome, à la recherche du soi, il y a un chapitre qui s'appelle Les revêtements du soi, où Arnaud explique quels sont ces cinq revêtements. Et comment est-ce que, en ayant conscience de ces aspects-là de nous, on peut s'en dissocier ? Donc c'est un support de désidentification. Et bien là, il met tout dans un... il fait un paquet cadeau et dit « je ne suis pas les cinq revêtements du soi ». Ensuite, il se dissocie aussi ou se désidentifie de ces... capacité d'action. Je ne suis pas la parole, la capacité de parler. J'ai la capacité de parler, mais je ne suis pas la parole, cette capacité. J'ai des mains, je peux prendre, mais je ne suis pas mes mains. J'ai des pieds, je peux bouger, mais je ne suis pas mes jambes. J'ai un appareil génital, je pourrais me reproduire, et je peux excréter, je vais aux toilettes, mais je ne suis pas ni mon sexe, ni ma capacité excrétatoire. Alors là, c'est de nouveau typiquement des notions qu'on trouve dans le Vedanta importé du Samkhya. Le Samkhya dit on a cinq facultés de connaissance, nos cinq sens, et on a cinq facultés d'action. La parole, c'est une, les mains, deux, les pieds, trois, le sexe, quatre, l'anus, cinq. C'est avec ça qu'on agit sur le monde. Voilà. Eh bien, donc, de nouveau, il fait dans ce verset, il synthétise ça en disant « Ce n'est pas ça ce que je suis. »« Ah bon ? Qu'est-ce que tu es alors ?» Eh bien, « Chid Ananda Rupa Shivoham Shivoham. » Troisième sens, et vous allez voir que ça va crescendo. Là, donc le texte ne dit pas « je n'éprouve ni répulsion ». C'est moi qui ai rajouté « je n'éprouve ». Le texte dit simplement « ni raga ni dvesha ». Ceux qui connaissent un peu le Yoga Sutra, raga dvesha, c'est le troisième des empêchements à l'éveil. C'est le fait que nous sommes sans arrêt. Raga, c'est attiré. Dvesha, c'est repoussé. Voilà. Nous sommes habités par des attirances et des répulsions, des désirs et des peurs. D'accord ? Donc, Patanjali, dans le Yoga Sutra, il dit, voilà, il faut vaincre ça, sinon on n'arrivera pas à la sagesse. Et bien là, il dit, je ne suis ni... on peut traduire ça comme ça, je n'ai ni attirance ni répulsion. Je ne suis pas concerné par le jeu des attirances et des répulsions. Alors après, il décline un petit peu, ni convoitise ou égarement. Le mot égarement, ça se traduit aussi par folie. Bon. Ni suffisance, ni jalousie. C'est-à-dire, quelqu'un de suffisant, c'est celui qui a l'impression qu'il a tout, il a besoin de personne parce que voilà. Et celui qui est jaloux, c'est celui qui a l'impression qu'il n'a pas, au contraire. Donc, il est ni dans le sentiment de tout avoir ou de manquer. Bon, là, on est encore dans la psychologie, mais en même temps, on est en plein dans la voie de Swamiji, parce que qu'est-ce qu'on fait si ce n'est essayer de dépasser nos attirances et nos répulsions, nos sentiments de... notre vanité ou au contraire nos humiliations, voilà, on est pris là-dedans. Et dans le verset suivant, alors là de nouveau, on a une leçon de philosophie en raccourci où il dit « Je ne poursuis aucun des quatre buts de la vie humaine ». Et alors, si vous avez lu le texte que j'avais fait l'année dernière, ou il y a deux ans, sur les quatre buts de la vie humaine, eh bien, on est en plein dedans. Et si vous ne l'avez pas lu, eh bien, c'est sur le blog, c'est très bien. C'est quoi ces buts de la vie humaine? Selon les Védas, une vie humaine, pour qu'elle soit réussie, elle doit s'accomplir dans quatre domaines. Le domaine matériel, il faut être capable de subvenir à ses besoins. Donc, il faut avoir une prospérité minimale. Le domaine psychologique, il faut être capable de satisfaire ses besoins psychologiques, s'épanouir, et le terme kama désigne directement la sexualité. Kama Sutra, c'est le texte qui parle de l'épanouissement sexuel. Donc il faut une prospérité matérielle, un épanouissement psychologique et sexuel, et il faut dharma, il faut que ça se fasse dans un cadre moral. Parce que si vous gagnez de l'argent et vous profitez de la vie en dehors de tout cadre moral, eh bien, ça mène, selon le Veda, à l'inverse du bonheur. Vous n'arrivez pas à être heureux. Parce que comme vous n'êtes pas... Parce que la façon dont vous gagnez votre argent et la façon dont vous le dépensez n'est pas respectueux de la marge de l'univers, eh bien, tôt ou tard, la marge de l'univers vous le rend et il se passe des choses désagréables. Donc, voilà les trois buts. Il faut avoir un cadre moral et ensuite se déployer matériellement et psychologiquement pour pouvoir prétendre à l'éveil spirituel. Et moksha, c'est le quatrième but de la vie humaine envisagé par par le Veda et les Upanishads. Eh bien, vis-à-vis de ces quatre buts, et en particulier vis-à-vis du dernier, il dit « Je ne poursuis aucun de ces buts ». Donc il ne poursuit pas non plus moksha. Et vous allez voir plus loin qu'il dit « Non, j'ai pas besoin de d'être libéré, parce qu'il n'y a rien en moi qui est attaché. » Hein ? C'est pas mal, quoi. Hein ?
Il est comme ça, lui. Il a la chance. Mes parents n'ont pas fait ses propres séparations. Ils ont pas été
priés. Donc, hein, voilà. Donc, je vais un peu vite parce qu'il est l'heure. Donc, ça se termine de nouveau. Je suis la conscience et la béatitude. Je suis Shiva, je suis Shiva. Sens 4. Alors, Punyam et Papam, ce sont deux mots en sanskrit qui désignent les actes vertueux et les actes non vertueux, comme on dit, les péchés, voilà, les actes vicieux. Donc on pourrait traduire aussi, donc je ne suis concerné ni par le bien ni par le mal. Mais j'ai voulu rester près du mot sanskrit, donc j'ai mis acte méritoire et péché. Donc je ne suis concerné ni par le bien ni par le mal, ni par les actes méritoires, ni par les péchés, ni par l'agréable, ni par le désagréable. Et là aussi, les deux mots, c'est sukham et dukham, et on peut aussi les traduire par bonheur et malheur. Je ne suis pas concerné non plus par le fait d'être heureux au sens ordinaire, ou par le fait d'être malheureux au sens ordinaire. Et alors là, il envoie un grand coup de pied dans l'hindouisme et les pratiques religieuses, parce qu'il dit « Je ne suis pas concerné non plus par les mantras. Je ne suis pas concerné par les lieux saints, les lieux de pèlerinage qui en Inde ont tellement d'importance. Je ne suis pas concerné par les textes sacrés. Le Veda, je m'en balance. » Il ne le dit pas comme ça. Et encore moins, ou pas de la même façon, par les rituels, qui, dans la vie religieuse hindoue, ont bien sûr une grande importance. Donc, il balaye tout ça. Je ne suis pas concerné par les mantras, les lieux saints, les Védas, les rituels. Oui, en ce sens, on peut dire que Swamiji avait une liberté de cet ordre. Il ne faisait pas de rituels. Oui. Vous n'êtes pas de pèlerinage, les textes sacrés, oui, il les citait, mais c'était pas, voilà, il n'était pas, les Upanishads ont dit ça, je ne comprends pas, mais c'est vrai. Alors, c'était, ça aide à comprendre quelque chose que j'expérimente moi-même. C'est aussi la position de Ramana Maharshi, d'ailleurs. Voilà. Et puis, Swamiji ne répétait pas des mantras du matin au soir. Alors, vite fait, la cinquième strophe, eh bien du coup, puisque cette liberté intérieure, eh bien, elle est tellement complète que je ne suis pas concerné ou je ne suis pas assujetti, j'ai mis, hein, ce qu'on sait entre parenthèses, c'est moi qui ai rajouté, c'est pas dans le texte, ni par la mort, ni par la crainte. Alors, de quoi est-ce qu'on peut avoir peur si on n'a pas peur de la mort ? Ben, j'en sais rien, mais c'est pour généraliser. Je ne suis pas concerné par la mort, mais il n'y a pas autre chose qui me ferait peur davantage en tant qu'être vivant. Et toujours aussi un coup de pied dans la tradition et dans la société indienne, ni non plus par la distinction des castes. Il est né dans une famille de brahmanes, mais il ne se considère plus comme brahmane. Il n'est pas spécialement concerné par une distinction plutôt qu'une autre. Et alors, dans la foulée, en fait, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, et je ne suis jamais né. Hein? Pita naive, me naive mata. Pita, c'est le père, mata, c'est la mère, et jhana, c'est la naissance. Donc, pas de père, pas de mère, pas de naissance. Et voilà, pour pousser le bouchon jusqu'au bout, je n'ai ni famille, bien sûr, puisque je n'ai pas de père et de mère, je n'ai pas de famille, ni amis, et je ne suis pas concerné par la relation de maître à disciple. Je ne suis pas un maître, je ne suis pas un disciple. Je ne suis pas concerné par cette notion de transmission. Pourquoi ? Parce que je suis conscience, conscience béatitude, point final, je suis la source, le principe de tout bien, Shivoham, Shivoham. Allez, la dernière. Les cinq premières stances, vous relirez, c'est les stances où il dit ce qu'il n'est pas, avant de donner le refrain. Et la dernière, et c'est la seule, où il décrit, où il tente de décrire qui il est, en termes positifs. Ceci dit, on va voir que, en tout cas pour le premier vers, ce qu'il décrit, c'est aussi des mots par la négative. Hein? Donc, ma nature est non différenciée, nirvikalpa. Nirvikalpa, c'est... Vikalpa, c'est les différences. Nir, c'est la négation des différences. Dans ma nature, il n'y a aucune distinction. Il n'y a pas un haut, un bas, une droite, une gauche. C'est ma nature est non différenciée. Et de même, le deuxième terme, nirakara. Rakara, c'est la forme. Nir, c'est akara qui est la forme. Et nir, la négation, donc j'ai traduit sans forme. Donc ma nature, elle ne comporte aucune différence, il n'y a pas de différenciation dans ma nature, et elle n'a pas de forme. Bon, alors si elle n'a pas de différence et si elle est sans forme, eh bien elle est omniprésente. Je suis partout. Et très intéressant, la précision. Sarvendriyam, Sarvara Sarvendriyam, je suis partout, y compris dans les sensations, dans les sens. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est védantique et non pas qui relève du Samkhya. Dans le Samkhya, je vous ai dit, on dissocie la conscience de la nature et de la manifestation. Et là, il dit, non, je suis dans les sens, je suis partout. Donc, je regarde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il faut vraiment m'arrêter. Ça veut dire que quand nous regardons, ce qui nous permet de regarder, au fond du fond, c'est cette nature. Et cette nature, c'est de la conscience. La conscience n'est pas personnelle. Elle est à l'arrière-plan de notre conscience relative, de notre conscience d'ego. Mais c'est comme le courant électrique qui passe dans une ampoule. C'est l'ampoule qui éclaire, mais c'est parce qu'il y a du courant qui traverse le filament. Mais de la même manière, notre conscience individuelle, elle est imprégnée de cette conscience majuscule. Et c'est vraiment intéressant qu'il précise ça dans le dernier stroke.
Pourquoi tu parles de sensation, ta perception?
Oui, parce que c'est ce que nos sens perçoivent. Le mot indriya, c'est organe des sens. Donc j'imprègne tous les organes des sens. Ou tous les organes de perception. Incommensurable, donc ma nature, elle est incommensurable. Elle est sans attache et donc elle n'a à se libérer de rien. Donc voilà, la notion même de libération, c'est une notion relative qui qui est lié au fait que nous, nous nous sentons conditionnés. Mais notre nature profonde ne se sent pas conditionnée et donc n'a pas à entreprendre quelque chose pour se libérer. Eh bien voilà, chers amis.
Mais alors, quand Swami Vajnapas dit l'être Shankara Gotuel, c'est une boutade.
Shankara Gotuel.
Oui. Ouais. C'est ce qu'il a dit à Arnaud. Quand Arnaud, voilà, vous connaissez le dialogue. Donc, pourquoi il a dit ça ? C'est pas parce qu'il en avait après Shankara, c'est qu'il en avait après le mental d'Arnaud qui cherchait à se raccrocher à ses connaissances pour ne pas recevoir l'enseignement que Swamiji essayait de lui donner. Donc, ça va, vous voyez ce que c'est ou je raconte vite fait ? C'est au cours du premier entretien de Swamiji, quand Swamiji lui demande « qu'est-ce que vous voulez ?» et qu'il dit « je veux la vision du soi », il veut ça, là, il veut ce que décrit Shankara. Et Swamiji le met au défi, il lui dit « mais comment vous savez que le soi existe ?» Alors, il dit « les Upanishads disent que… » Mais comment vous savez que les Upanishads disent vrai ?» Manandamayi, puisqu'il était… « Manandamayi, comment vous savez que ce qu'elle raconte est vrai ?»« Oui, mais Shankara… » Et c'est là qu'il dit « Shankara, qu'il aille en enfer. Répondez à ma question. » Donc, c'est pas qu'il en a après Shankara, c'est qu'il en a après le mental d'Arnaud qui essaye de se raccrocher aux branches pour… Bon, et ben écoutez, j'espère que ça va nous inspirer. Je trouve que c'est un texte inspirant parce que il y a plein de situations où on peut s'en souvenir. Au moment où on se dit, mais moi je suis tellement affecté parce que mon fils ceci, ma fille cela, ou oui, mais voilà, en fait, en profondeur. J'ai pas de famille. Je suis libre de la famille. C'est pas que je nie la famille, mais c'est que je ne suis pas lié à cette famille dans ma profondeur. Et puis, vous reprenez tout, et puis on n'a pas le temps, mais on pourrait le faire, reprendre chacune des phrases en voyant comment on peut se l'appliquer à nous. Et comment se l'appliquer dans le sens, c'est pas que je suis rendu à ce point-là, mais au sens où ça peut ça me montre une direction. Mais je ne suis pas obligé d'être identifié à ça. C'est ça qu'il nous dit. Ça vaut le coup, non ?
Pour ça qu'on est là.
Voilà.
Merci. On a eu le temps de...